Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un Profession philosophe enregistré avec Robert Misrahi et initialement diffusé en décembre 2018. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Robert Misrahi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je vous ai défini comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Je me définis en effet comme philosophe, comme sujet universel. Je suis le sujet de tout le monde qui, au départ de l'existence, rencontre des difficultés absolument fantastiques. D'abord et tout de suite, avant 7 ans, la maladie définitive de ma mère qui fait que j'ai été élevé sans mère. Ensuite, la guerre, l'arrivée des Allemands qui fait que dans les écoles nous sommes évacués vers des centres d'hébergement loin de mon père, donc solitude. Après la guerre, retour à Paris, mais avec les Allemands à Paris. Occupation, étoile, port de l'étoile. Alors, solitude orphelinat, la guerre à Paris avec les persécutions dont j'entends parler, moi-même obligé de porter l'étoile et à certains moments de mon propre chef, sans que personne ne m'ait suggéré l'idée, tout jeune, 15-16 ans, je retire mon étoile. Retirant mon étoile, je risquais immédiatement d'être pris dans une rafle et déporté immédiatement. Non pas au bout d'un certain temps, comme la plupart des Juifs de Paris, mais immédiatement si j'étais arrêté. Et ça, je le savais. Et j'étais seul à décider ça. Et je me suis dit, c'est ça, avec la chance de passer entre les mailles nazies, ou bien j'obéis à cette loi, peut-être Nice, je garde mon étoile, et je suis déporté comme tous les autres. J'ai pris le risque, donc j'ai vécu au pied de la solitude et de la mort. J'ai donc été, en somme, si l'on veut, mené par les circonstances, mais je préférerais dire conduit par moi-même. J'ai été amené à me conduire moi-même, seul. À me conduire seul au milieu des plus grandes difficultés. Et au milieu de la guerre et de la Shoah.
Et à partir de quand est-ce que vous rencontrez la philosophie?
Au retour de cet hébergement, c'est-à-dire les années 41. Des années 41, comment est-ce que je rencontre la philosophie? D'abord parce que, depuis toujours, j'ai envie de parler de ce que je fais à mes camarades. Même comme jeune enfant, j'étais passionné par l'idée, si vous voulez, de faire leur devoir. Ils me demandaient une aide que je donnais toujours avec plaisir. Alors, tout au long de ma vie, je me suis dit, vous allez voir, ça s'enchaîne tout simplement. Premièrement, je serai instituteur. Et puis, je passe mes classes préparatoires. Deuxièmement, non, je serai professeur de lettres. Puis un beau jour, je tombe en classe de philosophie. Ben non, évidemment, je serai philosophe.
Ah, c'est en classe de philosophie?
Oui, c'est en classe de philosophie, en rencontrant la voix philosophique de notre professeur qui était Raymond Paulin. Naturellement, c'est lui qui nous a ouvert à la philosophie.
Et vous vous souvenez d'un texte en particulier que vous étudiez à ce moment-là?
Mais oui, de Spinoza.
Spinoza.
À un moment, notre professeur nous donne un sujet de dissertation qui est un texte de Spinoza. Et je me dis déjà, intéressé par la réflexion, les cours, tout ça, je me dis, je dois lire ce philosophe avant de commencer ma dissertation.
Et vous vous souvenez du texte en particulier de Spinoza? C'était lequel?
Le texte en particulier était l'une des propositions qui fait la critique de la pitié et du remords. C'est dans le livre 4.
De l'éthique.
De l'éthique, naturellement. L'éthique est le grand livre qui m'a fondé, naturellement. C'est le grand livre, c'est le très grand livre philosophique destiné à tout le monde. À partir de là, j'ai consacré toutes mes études à Spinoza. À cette époque, nous avions affaire, une fois à la fin des études secondaires, et puis une fois qu'on était entré en faculté, nous avions à imaginer deux thèses. L'une de ces thèses, qu'on appelait la thèse complémentaire, portait sur Spinoza. J'ai décidé d'étudier Spinoza, mais d'étudier un Spinoza que personne n'évoquait.
Alors, quel est ce Spinoza? D'abord, qu'est-ce qui vous a tant marqué chez Spinoza, d'en parler? Et ensuite, et c'est vrai que vous avez une lecture très singulière de Spinoza.
Oui, oui.
Alors, dites-nous.
Alors, je rencontre en Spinoza d'abord un philosophe laïque et athée. Tout le monde me dit qu'il croit en Dieu. Sous le prétexte vain suivant, c'est que le premier livre de l'éthique s'appelle « De Dieu ». Et tous oublient que Spinoza dit quelque part « Ne donnez aux mots que le sens que je leur donne ». Et puis je trouve qu'à la partie 4, je trouve « Deus sive natura ». C'est Spinoza lui-même qui dit que le Dieu dont il parle, c'est la nature. On conclut aisément que c'est un masque. Comment se fait-il qu'on évoque avec enthousiasme le cas de Descartes, qui était prudent, et on dit Descartes, le philosophe au masque. Tout le monde rapporte cette idée, juste, sans problème. Et lorsque je dis Spinoza est un athée caché, on m'incendie. Non, 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 Spinoza, c'est un nouveau déisme, ce sont des histoires. Ce qui m'a marqué chez Spinoza, c'est l'idée suivante, maintenant vue à l'essentiel. L'idée suivante, il y a un seul monde qui est le nôtre où nous devons vivre. Il n'y a pas d'arrière-monde. Dieu, c'est la nature, nous sommes une partie de la nature. Il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de Dieu personnel. Il fait la critique de l'idée d'incarnation en remarquant tout de même combien c'est absurde. Un Dieu infini ne peut pas se cartonner. Donc il est athée. Alors ce qui me plaît, c'est ceci. Un philosophe qui est carrément athée en plein XVIIe siècle, qui a subi une tentative d'assassinat, pour cela qui a subi une excommunication. C'est du sérieux son athéisme, ce n'est pas de la plaisanterie. Et en outre, il présente une doctrine de l'homme, et donc, il enchaîne une éthique qui découle de la doctrine de l'homme. Le point principal de cette doctrine, c'est l'idée suivante, le désir et l'essence de l'homme. C'est le désir qui est l'essence de l'homme. Non pas que tout désir soit acceptable ou bon, non pas que tout désir soit mauvais, mais de toute façon, le désir, c'est-à-dire le connectif, c'est-à-dire l'effort pour vivre, c'est-à-dire l'énergie de vivre.
Et pour vous, la philosophie est une affaire de désir? De désir de vivre?
Bien sûr, la philosophie est l'effort pour répondre à la question de savoir comment cet être humain doué de conscience et éventuellement de réflexion, comment peut-il conduire sa vie?
Avec cette nuance près, le désir évidemment de rester en vie, l'interrogation quant au but à poursuivre lorsque nous sommes en vie, mais aussi un autre concept qui est très important dans votre travail, Robert Misrahi, qui vous a suivi tout au long des nombreux ouvrages que vous avez écrits, de la philosophie que vous avez développée, c'est le concept, ou l'idée même, de liberté. Et celui-ci, vous ne l'avez peut-être pas trouvé chez Spinoza, car Spinoza est quand même le penseur du déterminisme.
Absolument.
Mais chez un autre philosophe que je vous propose d'écouter à présent.
La liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. Alors prenons un exemple, un homme qui dirait « je ne veux pas faire de politique ». Donc ma liberté de rester en dehors, c'est un homme qui, d'une part, fera tout de même de la politique. Par son refus, il se classera parmi les anarchistes de droite, par exemple. Et en même temps, il le fera librement. Donc, si vous voulez, devant le problème politique, nous sommes condamnés à être libres. C'est-à-dire que le choix que nous ferons comporte un certain engagement libre.
Vous écoutez Jean-Paul Sartre sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Je suis en compagnie de Robert Misrahi pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe. Quand avez-vous rencontré Jean-Paul Sartre, Robert Misrahi ?
Je vous le raconte en détail parce que ça vaut. Je suis donc, quand j'ai 16 ans, 15 ans, 16 ans, je prépare le bac et bientôt l'entrée en faculté. Et je suis passionné, comme vient de dire, par Spinoza. Mais par le Spinoza qui commence au livre 3. Par Spinoza qui commence à étudier le désir, qui en étudie les faiblesses, c'est-à-dire l'inadéquation, la dépendance, et qui en étudie la libération par la raison. Et il nous promet quoi ? La béatitude, c'est-à-dire la plénitude et l'autonomie. Ça me plaît, mais je rencontre parce que je le suis de près. J'étudie de près et je rencontre, à mon désespoir, pas tout à fait, je rencontre le déterminisme. Mais qu'est-ce qu'il fait, je me demande, ce Spinoza ? Il nous propose une autre vie que la vie ordinaire où nous sommes inadéquats à nous-mêmes. Notre action est commandée par l'extérieur au lieu d'être issue de notre propre essence. C'est ce qu'il dit. Et il veut que nous passions de cette vie aliénée à la vie autonome, gagnée par la raison. Mais comment il veut qu'on change ? Parce qu'il dit, par ailleurs, très nettement, tous nos affects sont déterminés. Toutes nos pensées, tous nos affects sont déterminés comme les objets de la nature.
Oui, il dit que la liberté, c'est l'ignorance des causes qui nous détermine.
C'est ça. Et je trouve que c'est une absurdité, ça, cette phrase. L'ignorance des causes qui nous détermine.
Ce qui n'est pas rien, c'est que vous contestez le fond de la pensée spinoziste.
Oui. Je suis à la fois, même si j'exagère, vous n'en tiendrez pas compte, mais je suis l'un des meilleurs connaisseurs de Spinoza et surtout le plus admiratif. Je crois que c'est le philosophe le plus important.
Et alors Jean-Paul Sartre, comment intervient-il ?
D'abord, je demande à Spinoza, parle vers moi dans mes travaux, mais comment est-ce possible avec le déterminisme, ce sacré déterminisme ? Non, ça ne marche pas. Il faut le déterminisme, lui en veut pas à Spinoza, c'était le XVIIe siècle. C'était pour mettre en place l'esprit scientifique, il avait raison, il suivait Descartes, il avait tout à fait raison. C'était pas un déterminisme à la Freud qui consiste à dire « mais vous n'êtes rien, vous n'êtes pas maître chez vous, vous avez subi 3 humiliations au cours des siècles ». Non, c'est pas ça le déterminisme, c'est au contraire, le déterminisme, ce sera l'instrument de votre pouvoir sur la nature. C'est pas possible. Et alors à ce moment-là, notre professeur de philosophie, Raymond Poulain, toujours, je lui sais une gratitude éternelle, nous dit « Veillez au prochain livre que va sortir un philosophe inconnu, qui est Sartre. Son prochain livre, prêtez-y attention. L'être néant sort, 1943, et je m'aperçois ce que personne ne dit, que c'est un ouvrage sur la liberté. »
Vous avez 17 ans à l'époque.
Oui, j'ai 17 ans. Je prends l'être néant, dès qu'il est sorti, je tombe en admiration. J'allais dire en extase, peut-être pas en extase, mais je me dis, c'est le livre qu'il me fallait. Je le lis, à 17 ans, je lis l'être néant, personne ne connaît l'être néant, comme vous savez. Je lis l'être néant, la plume à la main, etc. Puis un beau jour, j'en peux plus, je dis, il faut que je le rencontre, cet homme. Oui, mais je ne savais pas comment faire. J'étais souvent, je ne savais pas qu'en m'écrivant à l'éditeur, je l'atteignais. Donc j'écris tout simplement sur une enveloppe, « Monsieur Sartre, Café de Flore ». Et la lettre est arrivée grâce au poste. La lettre est arrivée 8 jours après, Sartre me réécrit, me répond, et me dit « Mais venez me voir, etc., je vais te boire au Flore ». Et puis pendant des années...
Vous êtes devenu ami ?
Oui. On était devenus très proches de pensée. J'oserais pas dire amis. Et en même temps, pourquoi pas? Parce que les premières rencontres que j'ai eues avec lui étaient des rencontres extasiées. J'étais le jeune étudiant, admiratif, à bon droit, admiratif, qui posait des questions. Quand je n'étais pas d'accord, il y avait des points où je n'étais pas d'accord. Alors là, je ne disais pas que je n'étais pas d'accord, je l'admirais, je lui disais que je ne comprenais pas. Alors il m'expliquait pendant une heure, c'est-à-dire qu'il y avait une heure de cours de philosophie chez Sartre, par Sartre.
Et il vous a encouragé à développer votre propre pensée, votre propre philosophie.
Il m'a encouragé. À un moment, je brigue un poste dans l'enseignement, un poste de surveillant. J'obtiens mon poste et j'allais voir Sartre souvent. Un jour, je lui dis, j'arrête, je ne peux pas continuer, je n'ai pas d'argent, mon père est toujours au chômage, j'arrête. C'est tout à fait comme s'il me grondait gentiment. Il me dit, non, n'est pas question, vous n'arrêtez pas. Et alors, veste de générosité suprême de la part de Sartre, toute l'année d'agrégation, il m'a payé mes études. Il me donnait une certaine somme d'argent dans une enveloppe tous les mois. Et j'ai refusé le poste de surveillant, j'ai préparé l'agrégation, j'ai réussi, je suis passé en fac, puis j'ai commencé à écrire. Et sur quoi est-ce que j'ai écrit? Je venais de rencontrer Sartre. Pendant les années 13-14 ans où j'étais en camp d'hébergement, j'avais rencontré des gens qui m'ont aidé. Quand je suis rentré à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la préfecture, qui un beau jour me dit, tel jour, il y a une rafle par les Allemands. Il y a eu cette rafle, c'est la rafle du Veldiv. Il m'avait prévenu un peu avant. J'ai été caché par lui, par ce Parisien. Ce Parisien, sa femme, son petit enfant. Je veux dire ceci. Au travers des pires malheurs que subissait aussi bien le pays que moi, j'ai eu de nombreuses chances que je reconnais aisément. J'ai eu de nombreuses chances et à chaque fois, il y a eu un marchepied. Il y a eu quelqu'un qui m'a aidé matériellement à poursuivre. À chaque fois, on me disait, vous devez continuer, vous devez aller au lycée, ce qui n'était pas possible. Pour moi, on m'aidait d'une façon ou d'une autre. Sartre qui me dit, mais vous devez continuer, il n'est pas question que vous arrêtez, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Et je ne vous raconte pas des chances encore plus extraordinaires. Quand j'avais 13 ans, 1940, dans cet endroit, ce lieu d'hébergement où on avait refoulé tous les enfants des écoles, devant l'avancée prévue des Allemands, on avait été en centre d'hébergement, où on continuait nos études, les instituteurs étaient bien avec eux. Et là, j'étais tout gosse, 12 ans, 13 ans. Je rencontre une institutrice, je suis dans le groupe de la meilleure des institutrices, évidemment, et qui, elle, m'a aidé. Elle m'a fait lire des choses, elle m'a fait entendre Mozart, etc. Des choses absolument incroyables. Voilà. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Pour expliquer comment il a pu se faire que j'ai décidé, au moment de faire ma thèse, j'ai décidé de construire une philosophie du bonheur.
Voilà. Bah, c'est le terme qu'il fallait prononcer. Vous avez parlé du désir chez Spinoza, de la liberté chez Sartre. Peut-être le concept ou le terme qui sert de fil directeur à votre philosophie, Robert Misrahi, c'est celui de bonheur.
C'est le bonheur.
C'était un choix. Parce que là, vous dites, j'ai construit une philosophie du bonheur.
J'ai construit une philosophie du bonheur. Une philosophie se construit, en effet. C'est-à-dire que je réfléchis et j'écris sur ce dont je traite. Et je traite, je le fais d'une façon bien organisée. Par exemple, le sujet de ma thèse, alors de la grande thèse, non plus la petite thèse sur Spinoza, qui pour moi était très facile, j'avais fait vite, mais la grande thèse, lumière, commencement, liberté, et je cherche, parce que je comprends que c'est comme ça que les idées s'enchaînent, je cherche à répondre à cette immense ambition, presque irresponsable. Pourquoi est-ce que moi, je réussirai à fonder la philosophie.
Fonder la philosophie.
Fonder la philosophie. C'est-à-dire... Pas la philosophie du bonheur. Mmh. Je veux faire fonder la philosophie. Y a-t-il des critères ou des méthodes de départ? Y a-t-il des points de départ sur lesquels des bases, sur lesquelles je pourrais appuyer une philosophie? Et qui, en même temps, ces points de départ me diront dans quelle direction se trouvera cette philosophie.
Donc ça, vous le dites dès que vous commencez à écrire en votre nom. C'est, en fait, vous interrogez tout de suite sur la question de l'origine même du geste philosophique.
Oui, exactement. L'origine est le fondement. Le fondement, ça veut dire non seulement origine, mais critère, source et critère de vérité.
Alors comment vous vous y prenez? Parce que, voilà, dans cette émission, on essaie de voir comment vous avez rencontré la philosophie, ça vous nous l'avez bien dit, et aussi comment vous travaillez. Alors concrètement, une fois que vous avez ce projet en tête, puisque ce projet vous anime depuis le début, depuis votre plus jeune âge, et que vous avez beaucoup écrit, comment est-ce que vous vous y prenez? Vous lisez des textes, vous écrivez beaucoup?
Alors, d'abord, j'ai beaucoup travaillé les textes. Et puis, j'ai sélectionné les textes qui m'intéressaient. J'ai très vite compris, c'était l'objet même de ma première thèse, j'ai très vite compris que le point de départ et le critère ne pouvaient être que le sujet lui-même. Rien d'extérieur au sujet ne peut fonder la vérité du sujet.
Le sujet, c'est vous?
Oui, c'est moi. C'est...
Donc vous dites « je ».
C'est-à-dire n'importe qui.
Oui, mais c'est-à-dire que vous dites « je » quand vous écrivez. C'est vous qui parlez.
Très vite, c'est pas un ton je abstrait. Dis « je ». Je dis « je » ou je prends le pluriel de courtoisie, je dis « nous ». Mais chacun comprend que c'est l'auteur qui parle. Et dans ma première thèse, je serai bref, j'étudie trois lignes. L'idéalisme absolu, Platon et tous les autres. Et puis, ça, qu'est-ce que va être le commencement de la philosophie? Je m'aperçois que c'est du commencement dont je vais parler. Je dis, modestement, n'est-ce pas, comme un jeune chercheur en philosophie, je vais faire le tour. Et comme c'est une thèse, il faut qu'elle m'habilite à l'enseignement. Mm-hmm. Bon, je passe à travers tous les textes. Et maintenant, pour être bref, première partie, est-ce qu'on ne doit pas se référer à un événement, à un acte, à un être qui serait le premier, que Platon appelle l'un, Platon, d'autres vont l'appeler Dieu, etc. Et cet être se voit. Il y a une vision de l'absolu dans la philosophie antique. J'étudie ça, j'étudie les textes. Je me passionne pour Plotin. Plotin, dont je sais que ça ne va pas être ça, parce que moi, je sais bien qu'il n'y a pas. Parce que je sais des autres choses avant. Je sais qu'il n'y a pas de Dieu, je sais qu'il n'y a pas de vision de Dieu, je sais que c'est une fausse route, mais je sais aussi que c'est de grands philosophes qui nous ont parlé à tous. Pourquoi? Et je découvre peu à peu qu'au fond, peut-être, s'ils étaient vivants maintenant, ils diraient comme moi, le commencement, ce n'est pas un être. Dans l'absolu, le commencement, c'est nous. Première partie, la vision du commencement. Deuxième partie, la pensée. Il y a Descartes, il y a tous les rationnels, Miss Kant, Hegel. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une base? Non, parce qu'ils ne nous expliquent pas pourquoi ils se mettent à faire de la philosophie.
Donc ce que vous dites, c'est que vous avez... dès le départ, une intuition, vous voulez dire quelque chose, et que votre travail consiste à chercher comment nommer ce que vous voulez dire, et voir comment les autres philosophes s'y sont pris pour pouvoir trouver les termes adéquats à votre propre pensée.
Oui, mais je ne me suis pas soucié de faire des concepts. Je les ai faits.
Ils sont venus à vous parce que vous dites, je me suis rendu compte que c'est du commencement que je voulais parler, comme si en fait c'était déjà là, mais qu'il fallait que ça passe à l'état de conscience.
Oui, un peu, c'est ça.
Donc c'est quoi? C'est une forme de vocation?
Non, c'est pas une vocation, parce que personne ne m'a appelé à faire tout ce travail. Et puis, peut-être que oui, j'étais fait pour, si vous voulez, on peut peut-être dire ça. Mais l'expression ne me satisfait pas. Je dirais plus que vocation, je dirais choix. Pourquoi choix? Parce que je me suis rendu compte très vite que tous les actes que je mettais en place, de ma part, heureux ou malheureux, réussis ou pas réussis, intéressant ou pas, tous mes actes venaient de moi.
Ça veut dire que vous ne distinguez pas.
Très vite, vous avez compris très vite que tous les actes sortent du sujet comme s'ils étaient leur propre source. Si vous voulez, c'est l'autonomie intérieure. Je l'ai senti très vite. Alors, je dis autonomie intérieure, je dis commencement. Je ne cherche pas à construire un système de concepts. Cette idée me déplaît. Je ne cherche pas à construire un système de concepts. Je cherche à décrire avec précision une expérience que je vis. Mais pour décrire avec précision, on le rend compte de concepts. Le concept, ça va être un terme que je définis à ma façon. Alors, je définis certains termes qui recouvrent des expériences, je les définis à ma façon, mais en ayant toujours à l'esprit présente l'idée suivante, ce que vit vaut pour tout le monde.
Oui, mais donc vous ne distinguez pas la philosophie d'un côté de la vie de l'autre.
Ah non,
au contraire, la philosophie cherche à nommer votre propre expérience.
Exactement. La philosophie, c'est la prise en main de sa propre expérience. C'est pourquoi je récuse le terme de profession. C'est trop peu, c'est faible la profession. Comme mes très talentueux collègues, je pourrais dire, j'ai choisi comme métier la philosophie. J'ai été prof de fac, prof de lycée, 15 ans au lycée, 35 ans en fac. Mon métier, c'est, je ne dirais pas la philosophie, mon métier, c'est l'enseignement de la philosophie, qui est autre chose.
Donc ça, là, pour le coup, c'est très différent de l'historien, de l'économiste, du mathématicien.
Oh oui, absolument.
Le philosophe n'est pas que prof de philo, c'est ce que vous dites, c'est une certaine attitude face à la vie.
Le philosophe, c'est ça. Le philosophe est quelqu'un qui veut prendre en main sa propre vie par la réflexion et qui veut en même temps délimiter un but pour son existence, mais un but extrême.
Mais alors, est-ce qu'on peut être philosophe sans avoir jamais lu un texte de philosophie ?
C'est une formule, c'est pas sérieux, c'est sympathique.
Mais on peut tout à fait décider d'essayer de choisir, de se donner cette autonomie dont vous parlez, de se donner un but, de mettre des mots sur ce que nous vivons, sans avoir jamais lu Spinoza, Sartre ou Descartes.
C'est vrai, il y a des gens qui commencent par être incultes en philosophie et qui ont en eux, là vous avez tout à fait raison de le souligner, et qui ont en eux un désir de comprendre, une faculté de comprendre les choses. Souvent ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller au collège, au lycée, etc. Ils restent un peu dégrossis, mal dégrossis, et ce sont des personnes extraordinaires qui saisissent ce que c'est qu'une interrogation existentielle. Très souvent, je dirais volontiers que telle ou telle personne, personnalité privée, apparemment inculte, est plus philosophe que tel ou tel prof de philo ennuyeux, terne et inutile. Ça existe aussi, des profs de philo inutiles, il y en a beaucoup. La preuve, c'est que la philosophie est en perdition actuellement, la philosophie, en termes sociaux, en termes d'éducation. On diminue de plus en plus le nombre d'heures de philosophie.
Vous parlez de la réforme actuelle de l'enseignement ?
Par exemple. Tous ceux qui parlent d'éducation actuellement s'intéressent aux horaires des classes secondaires. Ils s'intéressent à des bêtises, aux méthodes d'apprentissage de la lecture. C'est pas sérieux, c'est misérable. Il faudrait prendre l'éducation au sérieux, vraiment la prendre au sérieux, pas s'occuper de petits détails de la vie quotidienne.
Et il faut l'enseigner comment, la philosophie ?
Il faut l'enseigner.
Et comment ?
Par la parole et la lecture.
Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en classe de terminale.
Et les résultats sont nuls.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Les enseignants.
Ah oui ?
Tiens.
Donc les recruter différemment ?
Oui.
Selon quels critères ? Qu'est-ce que c'est un bon prof de philo ?
C'est quelqu'un qui transmet le goût de la réflexion quant à l'existence individuelle. Quelqu'un qui transmet le goût de la réflexion. Si ce quelqu'un pouvait être en plus quelqu'un qui permet de changer sa vie, Alors là, on est dans la philosophie, on est dans le bon professeur.
Mais ça se transmet, ça ?
On va dire oui.
Alors, désir, liberté, bonheur, il manque dernier... Oui ?
Oui, mais bonheur...
Mais on va y revenir sur le bonheur.
Ah,
je voudrais qu'on
revienne,
compléter votre portrait, mais justement, ce n'est pas sans lien. Il manque une personne.
Tout à fait.
Il porte un nom, mais on va le découvrir par sa composition. Il n'est pas philosophe et pourtant, il vous le tenait très très près de votre cœur. Le voici.
Que la philosophie doit nous en... avec l'aide pour les premiers piétinements du candidat philosophe de Spinoza et de Sartre.
C'est là que la philosophie doit nous emmener, vous dites, en écoutant. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'écouter ?
Là, c'est un concerto. De flûte, je crois.
Mais de Mozart.
De
Mozart. Tout le monde n'a pas reconnu Mozart, Robert Misrahi.
Bah évidemment, on n'avait même pas posé la question.
C'est le concerto pour piano et orchestre numéro 21.
Voilà, c'est ça.
Vous avez...
Il y a une œuvre tellement extraordinaire chez Mozart. Vous savez que mon dernier livre, c'est sur Mozart.
Eh bien, je le sais, je l'ai sous les yeux. Il s'appelle L'Éden, Mozart. Et
oui.
Vous décrivez... En fait, vous parlez de Mozart comme d'un philosophe.
Oui.
Pourquoi
tout
cela
à fait. Tout à fait. C'est un philosophe, un penseur, qui veut livrer par la musique les choses essentielles de l'existence. Non seulement ce que nous vivons, mais ce que nous désirons.
On l'écoute un peu ?
On l'écoute.
Écoutez le pianiste Maurizio Pollini ainsi que l'orchestre philharmonique de Vienne qui interprète donc ce concerto pour piano et orchestre numéro 21 de Mozart. Vous dites, Robert Misrahi, qu'il y a une signification existentielle de la joie mozartienne. Expliquez-nous.
Oui. La joie mozartienne, on vient de l'entendre, peut atteindre un extrême. Un extrême qui, à la fois qui nous émeut, qui nous emplit d'admiration, et puis qui nous fait penser, oui c'est ça, oui c'est ça la grande voix que je veux faire, c'est cette grande voix que Mozart est en train de mettre en place, de nous communiquer, d'éprouver et de mettre en forme. Et en même temps c'est un plaisir de l'esprit absolument extraordinaire. Je dirais même, sans pouvoir le prouver évidemment, une sorte de platitude. Je vais me permettre une platitude.
Vous savez que tout le monde vous écoute, vous êtes enregistré. Vous êtes...
Oui, on me pardonnera. Alors, on va dire comme si. On va dire comme si. Je suis prêt à affirmer que tout se passe comme si. Il y avait un grand philosophe qui est Spinoza, qu'il y avait un grand musicien qui est Mozart. Et qu'à part ça, il n'y a rien. Bon, d'accord, avec Xavier. J'adore Schubert, etc., etc. Mais regardez, on revient un petit peu, on se tasse un peu. Mais bien sûr, il y a Schubert, mais bien sûr, il y a Scriabine, mais bien sûr, il y a Beethoven, mais quand même. Soyons sérieux. Thank you.
Alors si Mozart est celui qui compose cet affect, pour parler en termes spinozistes, qu'est la joie auquel vous tenez tant, Robert Misrahi, est-ce que vous le distinguez du bonheur? Puisque ce ne sont pas les mêmes choses, les deux termes n'ont pas la même signification.
Alors, j'ai écrit un petit livre, là, le premier, qui s'appelle « Le bonheur, point, et c'est sur la joie ». C'est-à-dire qu'à un certain moment, le bonheur est composé de joie. Imaginons un raisonnement par l'absurde. Imaginons que dans bonheur, il n'y ait pas joie. Alors, il ne peut pas y avoir bonheur, ce n'est pas vrai. C'est le simple bonheur d'avoir terminé un voyage et d'être arrivé à bon port. Hein, quel bonheur on est arrivé, etc. Bon, c'est des petites choses, c'est pas ça. Dans le bonheur, il y a joie, mais joie extrême. Pas n'importe quelle joie. Pas la joie passive d'avoir gagné la loterie. Ou d'avoir gagné un billet pour un voyage. Il faut que la joie en question, cette joie qui sera digne d'entrer dans la composition du bonheur, c'est-à-dire consciente, active et surtout créatrice. La joie à laquelle je pense, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple possible, un ébéniste. Un ébéniste qu'on va dire d'art pour bien situer le travail. Un ébéniste, à la fin du moment des séances où il a travaillé et créé son meuble, éprouve une joie. Mais cette joie est profonde. Elle ne consiste pas à sauter en l'air. Elle ne consiste pas à manifester des gestes d'allégresse. Elle est profonde. Elle est, au sens de sérieux, elle est presque grave. L'ébéniste a terminé un meuble délicat, difficile, réussi, beau. Il peut presque souffler, s'appuyer sur lui-même et se dire « c'est bien ».
Et ça, c'est la joie, pas le bonheur.
Ça, c'est la joie. Alors, le bonheur.
Non. Comment vous définissez le bonheur? Une question redoutable qui traverse l'histoire de la philosophie.
Oui, et que peu veulent définir. Ils n'y arrivent pas. Ou il n'y arrive pas, ou il dit c'est pas possible, c'est l'ineffable, etc. Tout ça est faux. Tout ça vient, toutes ces hésitations viennent d'une sorte de modestie timide. Les gens sont pas cruels, méchants. Les gens sont souvent, plus souvent qu'on le dit, modestes. Ils se disent le bonheur, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pas pour moi. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas la chance, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force. Alors si on n'a ni la force, ni le courage, ni la chance, on a renoncé. C'est ce qu'il ne faut pas faire, la voix dont on parle, et qui sera une des composantes du bonheur, une des composantes du bonheur, elle est active et autocréatrice. La joie vient du fait que le sujet a créé quelque chose et à la limite, le sujet se crée lui-même. Paradoxalement, la joie extrême est la joie de se créer soi-même, c'est-à-dire d'être curieusement comme Dieu.
Mais vous êtes revenu sur la joie. Vous avez aussi éludé la question du bonheur. Comment vous le définissez, ce bonheur ?
Je suis en train de parler de la joie active et le bonheur. C'est l'accomplissement du sujet qui, au travers de la conscience de différentes joies actives, peut considérer qu'il s'est accompli et qu'il a accompli ce que j'appelle, nouveau concept si vous voulez, le grand désir. Le grand désir est l'accomplissement final, complet, joyeux, actif, serein, de son propre désir le plus vaste et le plus profond. C'est très exigeant. Le bonheur dont je parle n'est pas le confort et le bien-être. Je ne dis pas le moins du monde qu'il faille négliger le confort et le bien-être. Au contraire, c'est par le confort et le bien-être qu'un individu sera libéré. Libéré de tous les soucis. s'il a le souci de gagner sa vie, de travailler 12 heures, mettons, s'il a ce souci-là, s'il n'a pas de logement convenable, etc., s'il manque de confort, s'il manque de la condition humaine matérielle libérée, il ne pourra pas, on le comprend bien, sauf si c'est une nature exceptionnelle, mais sinon, il ne pourra pas travailler réellement à son accomplissement, c'est-à-dire d'abord se cultiver, ensuite se construire.
Donc le bonheur est un travail, le fruit d'un travail.
Le bonheur est le fruit d'un travail, naturellement, d'un travail de la conscience, d'un travail de la réflexion.
Mais que répondez-vous à ceux qui, bien loin de travailler, d'être actifs, se délectent d'une forme de passivité, d'inertie, mais qui revendiquent un bonheur?
Oh bah oui.
Ce que je veux dire, c'est que dans votre définition, n'y a-t-il pas quelque chose aussi de normatif qui ne conçoit pas le bonheur sans cette activité et sans ce travail?
Mais voici pourquoi, c'est presque normatif, vous avez tout à fait raison, mais voici pourquoi. Parce que ce que j'appelle dans mon prochain livre, un plaidoyer pour un autre bonheur. Alors, dans l'édition Le Bord de l'eau, je présente un plaidoyer organisé de la façon suivante. On me reproche d'ignorer la souffrance, c'est un reproche ridicule. Je suis le premier à savoir ce que c'est. Bon, je ne veux pas. Et je passe en revue toutes les questions qu'on m'oppose et qui ne tiennent pas debout. Parce que je dis en outre, en réalité, il y a quelque chose de fragile et d'éphémère. C'est le bonheur tel que vous l'entendez, le bonheur confort matériel. Oui, ça, c'est fragile et éphémère. Le bonheur matériel ou le bonheur passionnel, ordinaire, là, peut-être, on peut trouver de l'éphémère, de la fragilité. Tous les gens sont méfiants, tous les gens m'ont trahi, c'est pas possible avec ça, etc. On peut dire ça, ça existe. Quelqu'un qui est employé dans une petite entreprise qui n'a pas la possibilité de donner des emplois à vie, il sait bien que son emploi est peut-être fragile à certains moments. Alors, je dis ceci, dans vos critiques du bonheur, vous avez parfois raison de critiquer le bonheur ordinaire. Mais ce n'est pas de celui-là que je parle. Je veux un bonheur qui, lui, ne sera jamais fragile et éphémère.
Et qui consiste en la satisfaction de ce grand désir dont
oui,
vous nous parlez.
Très exactement. Très
Mais
exactement.
Il est extrêmement difficile de savoir quel est ce désir qui nous compose. C'est le travail de toute une vie.
On saura qu'on est en sa présence sur ce qu'on aura dans le vécu de l'accomplissement. Si vous voulez, à un moment, vous verrez ça beaucoup plus tard, à un moment, on peut se dire, ah, maintenant je peux mourir. J'ai tout fait. J'ai tout bien fait.
Vous arrivez à vous dire ça?
Moi, j'arrive, pas bien sûr. Modestement, en même temps, je fais peu de choses. J'ai construit mon métier, on ne me l'avait pas donné, ce métier, personne. J'ai travaillé, j'ai passé mes concours, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est ce que je voulais faire. C'est pas comme si je poursuivais un but, les Jeux Olympiques, et puis que j'étais obligé de m'employer, faire une menuisier du coin. C'est pas ça du tout. J'ai créé ce mien métier, qui est l'enseignement de la philosophie, parce que je l'ai voulu, comme je l'ai voulu. On m'a mis des obstacles, l'agrégation, la licence, tout ça. Et bon, j'ai joué le jeu, j'ai fait la course d'obstacles, parce que je l'ai bien voulu. J'aurais pu rester tranquille, faire des voyages, etc. Un jour, je trouve que mon père avait 12 ans. Mon père était toujours au FOMA, vous voyez d'ailleurs, toujours au FOMA, enfin 6 mois de l'année. Un beau jour, j'arrive tout glorieux chez moi, papa, je vais rencontrer l'oncle Antel. Il tient une boutique de coiffure, il m'offre de devenir son apprenti, et puis je commence demain. Et mon père, un ouvrier immigré, inculte, complètement inculte en langue française, en littérature, en tout. Mon père me dit, tu continues l'école. Tu ne vas pas chez l'oncle Jacques. Tu continues l'école. Lui, il savait à peine ce que je faisais à l'école, mais il savait que ça me plaisait. que ça marchait bien, que ça ne plaisait pas. Donc tu continues ça. Tu seras jamais ouvrier coordonné, tu seras jamais tailleur comme moi. Tu vas à l'école, tu continues. Alors moi j'ai saisi cette chance, j'aurais pu ne pas la saisir. Mmh. J'aurais pu dire quand même, t'es tout le temps au chômage, j'aimerais bien moi qu'on vive un peu plus tranquille. Je vais quand même chez l'oncle Jacques. J'aurais pu dire ça. M'entêter, et puis j'ai perdu.
Mais ça veut, pour vous, philosopher, la philosophie c'est une manière d'apprendre à vivre ou d'apprendre à mourir?
D'apprendre à vivre. Et puis, à l'occasion d'apprendre à mourir, évidemment. Mais il faut pas dire la philosophie, c'est d'apprendre à mourir.
C'est un mourir. Peu triste de passer sa vie à apprendre à mourir. Si c'est ça le programme.
Si c'est le programme, c'est d'apprendre à vivre. Et savoir vivre, c'est savoir mourir aussi. Mais pas d'abord, ensuite, plus tard.
Est-ce que vous vous donnez un rôle politique dans votre travail de philosophe? Est-ce une manière de vous engager politiquement, collectivement?
Oui. Alors, je vais prendre deux exemples. Mon engagement a consisté aussitôt la fin de la guerre, sur la base de la Shoah, n'est-ce pas? C'est la Shoah qui, pour moi, est la base de toutes mes réflexions. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est mon premier livre publié en 1963, La condition réflexive de l'homme juif. Je montre un homme qui est un Français, moi, qui est un Français qui n'est pas croyant. Je suis athée. Je respecte tous les cultes, mais aucun ne me concerne. Je suis athée. Je suis solidaire de toutes les souffrances qu'on a imposées aux Juifs. Et alors, je me suis engagé dans le combat pour Israël. Là, je me suis engagé, je vais même faire de la prison.
Vous avez déposé une bombe.
Oh bon, oui, c'est vrai, vous avez raison.
Bon, vous avez été mis incarcéré, justement, parce que pour cause d'apologie du sionisme et en guise de riposte, vous avez posé une bombe.
Ah, mais je n'ai pas été arrêté pour le dépôt de cette bombe. Ça, ils n'ont jamais su personne. Non. J'ai été arrêté, oui, parce qu'ils avaient trouvé 3 ou 4 petits revolvers chez moi que je passais de ci, de là. Alors, après ces actes, où j'ai risqué ma vie pratiquement, quand je me suis trouvé à Londres, tout seul, à faire ce que j'avais à faire, puis à rentrer sur Paris, tout seul, comme dit le bon peuple, il faut le faire. Je l'ai fait. Et puis, surtout, vous me demandez pour l'engagement. Je me suis engagé complètement, là. J'ai risqué la vie 2 ou 3 fois. Une fois, à cette occasion, défense d'Israël. Une autre fois, auparavant, lorsque j'ai retiré l'étoile, c'était au pied du risque de mort. J'ai frôlé la mort tout le temps. Et puis, je suis là, une offense absolument inouïe. Mais, ce que je veux dire, c'est que on m'a offert à ce moment-là, au moment de la création d'Israël, on m'a offert un poste politique en Israël que j'ai refusé. J'ai dit non, mon travail c'est la philosophie, j'ai trop à faire en philosophie. Et à partir de ce moment, je ne me suis plus occupé de cette question. Est-ce que j'ai renoncé à la politique? Mais certainement pas, mais d'une autre façon, plus paradoxale, plus décevante, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Existence et démocratie ». Personne n'a repéré, personne n'a lu, 2 ou 3 personnes n'ont compris. Un collègue de droit m'a dit c'est le meilleur livre du siècle, etc. Mais en fait, personne n'a. Existence et démocratie, je proposais des lignes d'action pour une démocratie heureuse.
Eh bien, il faudrait qu'on le relise aujourd'hui.
Mais évidemment.
On va se quitter avec une dernière musique. Robert Misrahi, ce n'est pas Mozart, mais c'est une musique qui vous est chère. Et c'est très surprenant. Vous allez nous dire pourquoi, avant qu'on l'écoute, il s'agit de Jambalaya, par l'orchestre Chris Barber. Qu'est-ce que c'est?
Je vais vous dire.
Dites-nous rapidement.
Ah, c'est la mise en forme de jazz, d'un chant de Louisiane. Un chant des paysans de la Louisiane, le country. Voilà, c'est un chant country qui se chante originellement en vieux français.
On l'écoute. Beaucoup Robert Misrahi d'être venu nous parler de votre philosophie aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, qui me permet d'être en contact avec tous les futurs philosophes et démocrates de France et de Navarre.
À qui on dédie cette émission. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous proposez un anti-manuel de philosophie, aujourd'hui sur la fragilité.
Et oui, mine de rien, la fragilité s'est installée dans le paysage mi-philosophique, mi-développement personnel. Pour preuve, le dernier ouvrage du philosophe Jean-Louis Chrétien, paru en 2017, sobrement intitulé « Fragilité », et c'est très érudit, allant des Grecs à Kant, ou la sortie l'année dernière de « L'art d'être fragile » d'Alessandro d'Avenia, best-seller en Italie, qui prône une ouverture aux accidents de la vie. J'en veux pour preuve aussi le succès d'une conférence régulièrement republié sur le site de France Culture, pourquoi il faut voir la fragilité comme une force, sans parler bien sûr de tous les articles ou dossiers nous encourageant à ne pas la refouler, notre fragilité. Il ne m'en fallait pas plus pour voir dans cette convergence une nouvelle injonction, celle à cultiver l'envers soi-disant lucide de notre univers pourri par la compétition.
Fragile, tendre, rebelle et insoumise, comme une fleur sur la banquise, douloureuse à la moindre brise, quand le froid souffle sur ton cœur. Perdu, je te regarde qui avance.
Faiblesse, inconstance, inconsistance, même débilité, ce sont quelques-uns des synonymes fort sympathiques de la fragilité. A priori, rien ne donne envie, en tout cas rien ne me donne envie de la laisser advenir, voire d'en faire un art. Pourquoi alors ce succès de la fragilité? Pourquoi est-elle tant séduisante? Qui veut devenir inconstant, inconsistant, faible et débile? Eh bien, comme pour la mode, il faut décrypter la tendance, et comme d'habitude, ce n'est qu'une histoire d'inversion, de positif et de négatif, d'aller et retour. L'époque étant à la compétition, à la concurrence, au capitalisme fort et féroce, il faut forcément jouer le jeu de la contradiction et de la pseudo-distance critique. Il nous faut forcément valoriser son contraire, la fragilité. Mais je le demande, qui veut ou peut faire le choix de la fragilité? Alors je ne vais pas tomber dans la critique marxiste, ce sont au fond les plus forts qui peuvent se permettre d'être fragiles de temps en temps, car ils sauront s'en relever, mais elle reste pertinente. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est ce paradoxe d'une existence fragile. Comment persister dans l'existence tout en en étant affaibli. Et inversement, que reste-t-il de la fragilité quand on résiste, quand on fait donc preuve de force malgré tout ?
Cette prise de conscience de notre fragilité est salutaire. Elle va nous permettre de repartir plus lucide, d'avancer même blessé. Car notre lucidité a besoin de l'adversité, comme elle a besoin d'intériorité.
Et fragile ce qui a la disposition de se briser facilement. La fragilité n'est pas que circonstancielle, mais carrément une propriété que de fait partagent tous les êtres vivants, condamnés à mourir. On est alors en droit de se demander pourquoi la cultiver si elle est déjà donnée. Et même plus, on est triplement en droit de se le demander. Car déjà, je le rappelle, c'est une disposition repoussoire, personne n'a envie d'être faible. Car ensuite, personne ne peut favoriser l'accident ou la mort. Et enfin, car très littéralement, personne ne peut amplifier ce qui est précisément inamplifiable. En fait, l'art de la fragilité a quelque chose de profondément contre-productif. Il s'agit de ne rien faire. Soit d'assister stoïque au coup du sort, soit de s'y ouvrir avec enthousiasme. Au final, c'est un éloge forcé de notre condition passive. Alors bien sûr, je vois déjà les objections. Je ne verrai pas la vertu de la fragilité, trop pétrie que je suis par ces idées de productivité et d'efficacité. Eh bien, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est ceux qui défendent la fragilité qui sont trop pétris par ces idées d'efficacité. Car au fond, cet éloge de la fragilité n'est qu'une conversion. Donnez-moi de la boue, j'en ferai de l'or. Traduisez-le, donnez-moi de la fragilité, j'en ferai une force.
Je suis Léa Salamé et je vous propose une série d'été, une rencontre avec des femmes puissantes. Pourquoi femmes puissantes ? D'abord parce que ce sont deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit des femmes qu'elles sont belles, douces, charmantes, délicieuses, parfois méchantes, parfois manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et bien cet été, je vous propose de rencontrer 9 femmes puissantes.
Vous avez remarqué, c'est le nouveau terme à la mode, puissant. Depuis le roman de Marie Ndiaye, les femmes sont puissantes, un récit est puissant, une rencontre est puissante, un café est puissant. J'en parlerai plus précisément une autre fois, mais j'y vois exactement cette même occultation de la force pour un terme plus vendeur, mais qui veut dire exactement la même chose. Et puissant, celui qui est fort potentiellement. Et fragile, celui qui résiste, qui est donc fort, mais sans le manifester. Pourquoi donc ne pas assumer que la fragilité aujourd'hui prônée n'est qu'un simulacre, une vertu bien commode pour les forts qui n'assument pas de l'être.
Merci beaucoup Géraldine et merci d'assumer votre force tous les matins à ce micro. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger réalisent cette émission pour vous chaque semaine. L'équipe des techniciens de France Culture prend le son pour vous chaque jour de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. Je vous proposerai de redécouvrir les 4 émissions autour de Schopenhauer, diffusées en juin 2018. Schopenhauer où je fais un malheur. On se demandera si l'art peut consoler, si la vie est finalement un choix à faire entre la souffrance et l'ennui. Comment passe-t-on de l'égoïsme à la pitié et si l'on peut ou non penser par le corps. D'ici là, si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram sur le compte des Chemins de la Philosophie. D'ici là, restez chez vous, à l'écoute de France Culture.